Il y a eu une bagarre hein, entre Moïse et le bon Dieu. Hein. Il n'était pas content, Dieu était en colère contre Moïse. Et Moïse était en colère parce que Dieu se mettait en colère, alors qu'il y était pour rien. Mais c'est vrai, il était pour rien si le peuple de Dieu s'était débordé. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est toi que. Si tu m'as donné la grâce, tu peux leur donner la grâce. Hein. C'est pas, je suis pour rien, je fais ce que je peux, j'ai rien fait, ce que tu ne m'as pas dit de faire, tout ça. Et Dieu qui se met en colère. C'est pas rien, juste comme ça. Mais la sagesse de la croix, c'est comme ça, c'est elle qui gouverne le monde depuis le début. Tu es en colère contre le Jésus. Parce que nous sommes pécheurs. Il y a une espèce de colère. Et nous, on est des membres vivants, Jésus vivant. Et Dieu se met en colère contre nous à cause du sikoussi méchamel. Il ne va pas se mettre en colère contre Valéry Giscard d'Estaing, tu vois, ou José Bové. Il s'en fiche. Donc il se met en colère contre le Christ, contre ceux qui sont. Pourquoi? Parce que quand on est choisi pour vivre en présence de Dieu, pour servir sa présence face à face, aussitôt responsable de la nature humaine tout entière. Si on ne veut pas être responsable des autres, alors à ce moment-là, il n'y a qu'à vivre sa vie et s'occuper d'autre chose. C'est ça, en fait. Mais si on est consacré à Dieu, si on est choisi pour servir en sa présence, prenez par exemple le pape, un pape qui serait un grand saint, ou le roi, tiens, le roi de France, voilà. Le grand monarque, celui qui est choisi pour servir en présence de Dieu, au nom de Dieu, tous ceux qui doivent être totalement délivrés de la main de Lucifer au jour de l'avertissement, Cassel. Voilà, il est en présence de tous les hommes et de la nature humaine aussi, tout entière, et même peut-être des souffrances que ne peuvent pas porter les générations antérieures et aussi les générations ultérieures. Les gens trouvent que c'est injuste, ce qu'ils vivent est injuste, parce qu'ils vivent une vie égoïste. Dis-moi, j'ai rien fait de mal. Je ne suis pas responsable. Car, dis-moi, je ne suis pas responsable de mon frère. Il l'a quand même tué. Et bien, il n'est pas responsable de mon frère. C'est la différence, voyez. Ouais. Si on est responsable de son entreprise, de son. Voilà, de son militantisme, sur des choses. Bon. Voilà, on a un sens aigu de la justice individuelle, mais de la grâce, ça nous échappe complètement. C'est vrai, c'est sûr, c'est indéniable. Mais la grâce fait que, d'un seul coup, il y a un passage de Dieu, à un moment donné, c'est pas tout de suite, c'est pas quand on se convertit. C'est pas tout de suite. C'est après qu'on nous a fait les oraisons de Sainte-Brigitte. Mais à un moment donné, il y a un passage de Dieu. Il y a un passage de Dieu. Et ce passage de Dieu fait que notre nature humaine redevient normale. Elle redevient normale. C'est-à-dire qu'elle fait qu'on est responsable en vase communicant et directement de tous les autres. C'est vrai, c'est... Quoique la Sainte Vierge, qui est très, très, très immaculée dans tout ce qu'elle fait, en plénitude de sainteté, elle se sent tellement responsable du mal qui se fait, que du coup, elle ne dit rien. Elle est obligée de demander pardon. Elle prend sur elle. Elle sait que c'est de sa faute, quelque part. Parce que ce que fait l'enfant de Dieu dans la nature qui est la sienne, c'est elle. Elle ne s'identifie pas au bien qu'elle est, elle s'identifie à cet amour, à cette grâce, à cette vie, à cette nature. Parce qu'on est plus à l'image ressemblance de Dieu qu'à l'image ressemblance du péché. Le péché fait que chacun se bagarre pour qu'il y ait le moins possible de mal. C'est ça. L'Antichrist, qu'est-ce qu'il fera? Il se bagarrera de manière admirable pour qu'il me vraiment admirable, pour qu'il y ait le moins possible de mal. C'est l'homme de péché qui fait ça. Donc on voit bien que ce n'est pas une question de bien et de mal. Toute la Bible montre ça. Ce n'est pas une question de bien et de mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'acharner à faire le mal. Évidemment, c'est pas ça. On a toujours une vision, surtout nous aujourd'hui, on appelle ça une vision dialectique. Hegel, c'est la dialectique. La dialectique du monde invisible, c'est Hegel. La dialectique du monde visible, c'est Marx, Engels. Le matérialisme dialectique américain, c'est toujours de la dialectique. La gnose, c'est dialectique yin et yang, toujours. Alors c'est le monde du mal, ça, qui... Voilà, donc si tu arrives à supprimer le mal maximum, c'est ça, voilà ce dont toi, dans quoi tu vas militer. Donc tu n'es pas responsable de ceux qui choisissent de ne pas lutter pour que le mal se diminue. Quand tu es le responsable. Voilà, c'est comme ça que fait l'ouvrier d'iniquité. Mais on est plus à l'image ressemblance de Dieu qu'à l'image ressemblance de l'homme d'iniquité. Il y a une découverte qui se fait comme ça à un moment donné. On devient quand même un tout petit peu plus subtil. Pourquoi? Parce que cette espèce d'aveuglement qui fait qu'on ne comprend pas les transgressions, qui font qu'on tombe dans la nacelle de l'homme d'iniquité, on n'est pas sensible aux transgressions. À la rigueur, le péché, on peut comprendre, mais les transgressions, non. La transgression originelle. Voilà, c'est quoi la transgression originelle, même si on a le baptême. La transgression originelle, c'est qu'on quitte l'image ressemblance de Dieu. Et puis, on voit bien sur Cain ce que ça donne. Chacun est responsable de soi, et puis c'est tout, c'est déjà pas mal. Cain, après son crime, il reçoit une bénédiction sur son front. 70 fois, il reçoit une bénédiction. Ça veut dire qu'il est décidé à ne plus jamais faire de mal. Et pourtant, il dit, je ne suis pas responsable de mon frère. Quant à lui, il est décidé à ne plus faire de mal. Conclusion, ses enfants, eux, ils vont finir par faire le mal. Mais lui, il a tout fait pour que les filles de Cain ne fassent pas le mal. Et les filles de Cain ont fait le mal. L'homme dit, c'est comme ça, et du coup les filles de Cain vont sur les anthropoïdes possédés par Satan pour procréer à Sikoussi mais jamais. Et voilà, c'est reparti. On juge l'arbre au fruit qu'il porte. parce que Marie, elle, l'Immaculée, on comprend bien. Hein. Elle porte, elle est. Le péché du monde, c'est un. Le mal du monde, le péché aussi du monde, le péché. Elle a été sauvée quand même par le Christ. C'est une absolution, hein, faut pas l'oublier, hein, c'est pas quelqu'un qui n'a. C'est pas, l'Immaculée Conception, c'est pas quelqu'un, voilà, qui est formidable. Quant à elle, elle n'a rien fait de mal, elle a fait que du bien, et la sainteté est pure. Hein, c'était la position, c'était une explication de Duns Scott, de dire ça, les franciscains. C'est faux, c'est pour ça que Sainte Catherine de Sienne dit c'est faux, Marie n'est pas Immaculée Conception. Ils avaient appelé ça Immaculée Conception. Et bien justement, c'est faux. Et c'est pour ça que Dieu le Père dit à Sainte Catherine de Sienne, Marie n'est pas Immaculée Conception. Dans le dialogue, c'est Dieu le Père qui dit. C'est pas vrai. Dieu n'est pas Immaculée Conception. Dans ce que ça veut dire, dans ce que certains théologiens disent. Et c'est pour ça que l'Église, elle arrive 5 siècles après pour dire voilà ce que ça veut dire. Dieu n'est pas Immaculée Conception au sens où, voilà, elle est Immaculée Conception au sens où elle est absoute. Elle est pardonnée. Par Jésus, par le Christ, elle est pardonnée, absolument pardonnée. Elle est, c'est une grâce rédemptrice qui apparaît dès le premier instant de son acquiescement dans l'existence. Il n'y a aucun arrêt entre le premier arrêt de son existence et l'absolution qu'elle accueille. C'est la différence avec Saint Joseph qui a eu un petit arrêt. Pas long, pas très long, pas très long, mais il y a eu un petit arrêt, on le voit dans la vie de Saint Joseph, un petit arrêt, et puis, c'est qu'est-ce que je dois faire, puis, toujours un minuscule petit arrêt, et cet arrêt à lui-même est une participation libre. À faire un acte, enfin, à agir, à réagir, en fonction de la propagation du péché originel. Et donc, c'est bien la propagation du péché originel qui a provoqué cette réaction personnelle. Bon, on ne peut pas dire que ce soit. C'est injuste, hein, tu viens d'être créé par Dieu et tu reçois une vague de tsunami immonde. Je dis quand même, qu'est-ce qui m'arrive là? Je m'arrête à me dire oui. Marie n'a pas eu aucun arrêt. Et la grâce de l'Immaculée Conception, la grâce de la plénitude de grâce, c'est une plénitude de grâce rédemptrice, c'est pas du tout la création de quelqu'un comme Ève qui avait la grâce sanctifiante. Avec toute la grâce sanctifiante originelle, voilà, surabondante, accomplie, et puis qui n'avait pas péché, qui ne pêcherait jamais, etc. C'était pas une deuxième essai par rapport à Ève qui avait foiré. Non, c'est pas ça, c'est faux. C'était pas une personne privilégiée parmi tous les autres. On va faire un privilège, voilà, on va faire une exception. Non, Marie, c'est pas ça. L'Immaculée Conception, c'est pas ça. Ouais. On est créé libre. Elle est pardonnée. L'Immaculée Conception est une grâce de plénitude au premier instant sans existence qui vient de Jésus-Christ crucifié. Qui dit pardonne-leur, ne savent pas ce qu'ils font. Je demande pardon pour moi. Je pardonne. Je reçois le pardon. Jésus ne maîtrise pas sur la croix. Quand il dit, il supplie. Et il supplie, il demande pardon. Ça ne se maîtrise pas. On reçoit des persécutions, des francs-maçons, tout ce que vous voulez. Bon, ben pardonne. Pourquoi ? Parce qu'on a été choisi pour être Jésus-Christ crucifié sur la terre. Pas Jésus-Christ crucifié qui doit souffrir, mais Jésus-Christ crucifié qui demande pardon à leur place. On peut très bien n'avoir pas à souffrir. On n'a pas besoin de souffrir. Si on veut, on peut ne pas souffrir. C'est pas un péché du tout. Mais par contre, d'être responsable du péché des autres, oui, ça, oui. Ça, c'est un péché d'échapper à ça. On n'a pas besoin de souffrir en ce sens que Jésus a pris déjà toutes les souffrances physiques insupportables sur lui. Il les a pris. Donc, c'est pas. On n'est pas du tout, mais pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout une nécessité, on peut très bien. Voilà, être dans les délices de l'union, etc. Mais on demande pardon, on souffre quand même de ce que nous sommes. Notre humanité, elle est mal quand même, elle a du mal. Et c'est nous qui sommes au milieu, et le grand saint, quoi. Saint Joseph se sent, sait qu'il est tout seul là. Et Saint Joseph, pendant 19 ans, on est compte, c'est. Vous savez, c'est quand même. C'est un livre ouvert, quoi, Saint-Joseph, pour savoir ce que c'est que la grâce du Christ, puisque c'est le premier à avoir ouvert dans le temps l'incarnation de la grâce rédemptrice du Seigneur, avant même qu'il y ait l'Immaculée Conception. C'est le premier qui a vécu, qui a parfumé, oint, macharisé. Les 36 heures de ma sépulture, toute sa vie, il a demandé pardon. Pour faire les délices, quoi, de la blessure du cœur, de l'union hypostatique déchirée de l'agneau. Ah, et il était porté, quoi, par. Il le voyait, il savait ce qu'il faisait, Saint-Joseph, quoi. Il vivait dans son union transformante, dans son mariage spirituel, surnaturel chrétien, rédempteur, crucifié. Il savait très bien. Ça ne veut pas dire qu'à l'utile personnel, il souffrait, mais ces souffrances du Christ surabondaient en lui, du dedans de lui. De manière qu'il n'y ait plus ces souffrances et qu'il ne se trouve plus que devant. Devant l'union hypostatique déchirée, c'est-à-dire devant, devant l'agneau, au moment où il ne souffre plus, il est mort. Et là, il macharisé, ça veut dire, vous caressez de l'intérieur, beaucoup d'amour, l'amour de tous les hommes. Tous les hommes sont assoiffés d'amour, tous les hommes, tous les temps. Et lui, il a été finalement capable de récapituler toutes ces soifs d'amour de tous les hommes. Qui ne s'accomplissent pas, il les a accomplis dans le Christ pour machariser l'union hypostatique déchirée de Jésus, de sorte que tous les hommes à travers Saint-Joseph se sont retrouvés comme ça justifiés. Nous avons cette capacité, cette Adam et Ève. Oui, on n'est pas, c'est là qu'on voit qu'on n'est pas des animaux. Un animal ne peut pas faire ça. Mais. L'homme et la femme ont cette capacité spirituelle incarnée, très réelle, très tactile, on peut dire, d'être présent à tous les enfants de la terre. Adam et Ève, c'est évident. Pour Adam et Ève, c'est évident. On n'a pas été créé un Adam et Ève comme ça. Un homme et une femme, c'est tout. Hein? C'était un homme et une femme qui étaient divinisés. Hein? Ils avaient la grâce sanctifiante. Ils avaient la grâce sanctifiante. C'était pas juste le premier homme, la première femme. Ils avaient la grâce sanctifiante en plénitude. Et en plus de tout ça, ils étaient dans l'acte. Ils passaient de la puissance à l'acte immédiatement. Ah oui, c'est ça. Peut-être qu'ils n'ont pas été assez vite à la spontanéité. Peut-être. Parce qu'ils n'ont peut-être pas été assez vite à l'au-delà de l'unité des deux. Il y a eu un petit espace, un petit cheveu, où le serpent s'est glissé. Ils n'ont pas été assez vite à l'au-delà de l'unité des deux. Mais ils ont rien fait de mal quelque part. D'ailleurs, ils le disent, mais. C'est un esprit de lumière de Dieu qui nous a dit, qui nous a dit quand. Ah, c'est le serpent qui nous a trompés, mais serpent, c'est quelque chose qui relève de la sagesse qui nous a trompés. L'Antéchrist, il ne se fera pas le mal. Il sera un grand militant pour détruire le mal. Il sera admirable pour ça. Admirable. Hein, vous prenez les prophéties de Soloviev, par exemple, sur l'Antéchrist. Et voilà. Et donc on voit Moïse qui est tout seul là. Et Dieu se met en colère contre lui. Alors que. Il a tout fait ce qu'il fallait. Le Seigneur se met. C'est être devant Dieu en colère contre toi, c'est un peu être. Hein? Humainement, séparé de la grâce, quand tu vis une vie psychologiquement. Hein? Humainement, psychologiquement. Hein? Dieu se met en colère contre toi, alors que tu as fait tout ce qu'il fallait. Bah, tu trouves ça injuste, non? Si tu vis psychologiquement, c'est-à-dire plutôt comme un animal, parce que c'est là, ce qu'on a psychiquement, c'est ce qu'on a en partage avec l'animal. Tu trouves ça injuste. Et on comprend tout de suite que la vie chrétienne, c'est un scandale. La sagesse de la croix est un scandale. Pour les hommes justes. C'est inacceptable. Alors on se révolte. Parce qu'on est trop psychologique, on est trop proche de l'animal. Et du coup, on est dans la spiritualité christique de l'homme d'iniquité. Bon, voilà, ça c'est le résumé, disons, toute la Bible. Tu vois, tu débutes d'Adam jusqu'à la fin, on dit que voilà, t'as le résumé. Alors, on a vite oublié, hein, parce que face au coup, alors Moïse s'est mis en colère, du coup. Lui aussi s'est mis en colère. Ça, par exemple, tous les gens en colère. Jésus, lui, s'est pas mis en colère. Il a dit que c'était normal. Marie ne s'est pas mise en colère. Parce qu'elle a souffert autant que Jésus. Hein. Et elle a pris, il y a eu la colère. Ils ont eu à subir la colère dans l'au-delà de l'unité des deux. À fond. Hein? À fond. Ah oui. C'est ton enfant. À briser les pare-brises de la bagnole du voisin, le voisin arrive furieux chez toi, il se met en colère contre toi, c'est ton fils. Et tout de suite, tu dis, ben voilà, je vous donne deux fois le prix du pare-brise. Il se calme. Et il trouve ça normal. Il s'est mis en colère contre quelqu'un d'autre. Et le papa de l'enfant trouve ça normal. se met pas en contrôleur quand on le voit ça. Même en plus, non seulement il rend deux fois plus, mais en plus il met à genoux, il demande pardon, il ne se pose plus. Il est désolé, même s'il doit donner deux fois plus. Il s'humilie désormais jusqu'à la fin de ses jours par rapport à ce voisin à cause de quelque chose qu'il n'a pas fait. On voit bien que c'est normal ça. Parce que les enfants de la terre sont nos enfants. Les enfants de la terre sont les enfants d'Immaculée Conception. Les enfants de la terre sont les enfants de celui qui est l'expression visible, manifestée, incarnée de la paternité éternelle de Dieu, c'est sûr. Voilà, donc c'est... Il y a quelque chose, voyez ça. Là, sur la terre. Et puis toujours vouloir dire, voilà, si on veut faire du bien sur la terre, il faut supprimer le mal qui s'y trouve. Mais c'est un orgueil monstrueux de faire ça. C'est pas très écologique, toute l'écologie. C'est vrai, on salit tout. Ça ne veut pas dire qu'il faut salir autant qu'on peut, hein. Empoisonner, mettre du zinc. Ça ne veut pas dire ça. Je dis, quand Dieu a créé le ciel et la terre, on oublie ça quand même. C'est la première verset de la Bible. Il dit que la lumière, ça, la lumière qu'il a créée, était bonne. Et puis. Aussitôt que le monde a été créé, bien sûr, la lumière, c'est-à-dire les esprits purs remplis de lumière de Dieu, ont acquiescé, c'était pas. Mais il y a eu des ténèbres, c'est-à-dire il y a des lumières qui ont dit non, moi j'ai des anges qui sont devenus mauvais, méchants, il y a eu des ténèbres, c'est pas Dieu qui les a fait. Et Dieu les a mis où ? Dans notre univers. Donc le plus grand pollueur de l'univers, c'est Dieu. Et c'est pas un mal. C'est insupportable que la pollution soit en dehors de notre univers. Mais que la pollution soit mise dans notre univers, ça, c'est pas un mal. L'univers, c'est provisoire. C'est rien, l'univers. Ça ne veut pas dire qu'il faut polluer au maximum. On n'a pas dit ça. Mais ce n'est pas notre tourment. Notre tourment, c'est le péché. C'est tout de même différent. Notre tourment, c'est le péché. Alors on est très très touché par... les hommes. Mais Dieu n'a pas créé le monde parfait. Pas du tout. C'est marqué nulle part. Il a créé le monde par amour. Et donc, comme il a créé le monde par amour, c'est marqué partout dans le livre des Proverbes, les prophètes, tout ça. Moïse, c'est tout ce que vous voulez. Jésus, n'en parlons pas. L'Apocalypse. Dieu, il a créé le monde par amour. Ça veut dire, il veut pas que le monde soit parfait. Sans amour, donc sans une coopération entre sa création et lui, à égalité, en affinité, complémentarité. Donc, voilà, si tout était créé parfait, l'amour ne serait pas possible. La coopération, l'au-delà de le bien, éternel dans la terre, c'est pas possible. Donc notre univers, donc voilà, on est, c'est la prière eucharistique numéro 4, ça. Très très belle la prière eucharistique numéro 4. Père, tu as créé l'univers. Tu as créé l'homme à ton image et à ta ressemblance. Tu lui as confié l'univers afin que, en te servant, c'est-à-dire en étant, en allant jusqu'à Maria spirituelle, afin qu'en faire toi son créateur, il puisse régner sur la création tout entière, la transformer. À ce moment-là, voilà cette transformation. C'est Gaudium et Spes dans Vatican II qui explique ça. Et l'univers n'est pas parfait. Il ne sera pas parfait. Par contre, Dieu a mis dedans de quoi résoudre tous les problèmes. Il n'est pas parfait. En plus, il est pollué par Satan. Et Dieu sait que cette pollution elle, a des répercussions énormes. Regarde les monstres que ça a fait. Les polycampes, ces espèces de mouches là. Les êtres. Il y a des créatures qu'on pourrait dire c'est naturel, mais c'est abominable, c'est une laideur. C'est sous l'influence de Satan. Ouais, objectivement, c'est pas parce que voilà, c'est objectif, objectivement vrai que c'est magnifique. Hein. Une fleur parfaite, c'est très beau. Mais c'est objectivement vrai quand même que tu vois ces monstres-là. Alors, heureusement que depuis qu'il y a eu l'homme, les monstres ont fini par disparaître. Il ne reste plus qu'à supprimer les mouches. Elles ressemblent trop à Belzebou. Mais elles sont obligées d'être toutes petites. Objectivement. Et donc, s'il y a du mal qui se fait à cause des démons, à cause des démoniaques aussi, parce qu'il y a les démons et les démoniaques, s'il y a du mal qui se fait dans le monde, et du coup, ils veulent faire des guerres, ils font des empoisonnements, tout ce que vous voulez, des égorgements. Il y a de quoi réparer. Dieu a mis de quoi réparer dans la terre. C'est pour ça que les gens se préoccupent. Ah mon Dieu, si on était rendu compte, si on était 700 milliards, alors qu'on est que 7 milliards. Dieu a fait de quoi? Tout est prévu. Il n'y a pas à se préoccuper. Tout est prévu pour... Il y a des lois de la nature créatrice de Dieu qui fait que si un problème arrive, il se résout automatiquement. Non pas par l'orgueil de l'homme, mais par les lois éternelles de la nature. Parce que les lois de la nature sont orientées et vivifiées et actuées par la cause finale. Donc sinon la cause efficiente, il y a des gens qui polluent, il y a quelque chose qui dilue. Et il y a des lois. La nature est ainsi faite qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le concert angélique aussi, glorieux, si on veut bien le faire entrer. Et du coup, il y a des dissolutions, des disparitions, des assainissements qui se font si l'homme est lui-même. Mais si tu n'agis qu'en fonction de l'homme d'iniquité, là, il va falloir que tu fasses beaucoup d'investissements pour diminuer un peu le mal, mais avec beaucoup de dommages collatéraux du point de vue de la grâce. Est-ce que c'est compliqué de comprendre ça? Parce que Dieu est notre créateur, c'est vrai. Et notre Père, c'est vrai aussi. Mais il est aussi notre providence. Et donc il n'est pas là, dit voilà, débrouillez-vous, maintenant me donnez votre part. Il est notre providence. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui apparaît. Si l'homme est au service de Dieu, s'il est lui-même ce qu'il doit être dans ce qu'il est, il faut qu'il accepte faut d'abord accepter ce que nous sommes. Mais voilà, nous sommes. Regardez l'Immaculée, c'est ça, l'Immaculée Conception. Elle est l'absolution. Elle a été pardonnée. Elle a reçu l'absolution. C'est vraiment génial, ça. Parce qu'elle fait partie. Elle fait partie, elle. Comme l'épouse fait partie de son époux. L'épouse vient de l'époux. Le Fils unique vient du principe. La première personne, la deuxième personne vient de la première. Lumière naît de la lumière. Marie vient de l'époux. Celui qui a demandé pardon. C'est extraordinaire de comprendre ça, que Saint-Joseph a finalement été le principe de l'Immaculée Conception. C'est Dieu qui est le principe de l'Immaculée Conception. Mais il s'est servi de Saint-Joseph, parce que Saint-Joseph, c'est son époux. Tout est fait avec nombre, poids et mesure. Hein, donc. Mais comment est-ce que Saint-Joseph a pu être... C'est ça qui est grand. C'est ça qui est juste. C'est ça qui est justification. C'est ça qui est grâce. C'est ça qui est croix. La sagesse de la croix est l'état pur. Pour un cheveu, il a demandé pardon. Parce que c'est vrai, il y a eu un petit arrêt. Il n'a pas pénétré pourtant. Il y a eu un petit arrêt. Donc il y a eu. Sa liberté a été... Et il a demandé pardon. Il a compris. C'est ça qui est extraordinaire. Avec l'ange, hein, parce que la proximité angélique, quand on est tout petit, est très grande. C'est ce que disent les rabbins, hein, c'est ce que disent, oui, c'est les midrash rabbiniques. Hein, la Torah toute entière, ça veut dire toute la Bible, la Torah toute entière, est enseigné par ton ange gardien quand tu es un embryon. Pas les bribes, pas le fond, pas toute la Torah. Alors quand tu te réveilles, quand tu nais, ton ange met le doigt sur tes lèvres comme ça. C'est pour ça qu'il y a la petite commissure ici. Vous savez ça? C'est une révélation. C'est Dieu qui nous révèle. Si Dieu ne nous avait pas révélé, on ne saurait pas. Mais on s'en rappelle quand même. Parce qu'on cherche à oublier tout ce que Dieu nous a donné. Donc c'est pour ça que Dieu nous le rappelle par la révélation. Et donc voilà, Saint-Joseph, aussitôt, avec l'ange, la Torah, c'est quoi? Avec un cheveu, il faut que Dieu soit crucifié. À cause de ce petit cheveu que tu avais, à Saint-Joseph toute sa vie. Recevoir la grâce rédemptrice de Jésus crucifié de l'union hypostatique de Syrie toute sa vie. C'est ça qui va déterminer chaque particule de matière de son corps spirituel, tout le temps, pendant 19 ans. La vie de Saint-Joseph a été une vie extraordinaire. Jusqu'au mariage spirituel, parce qu'à un moment donné, bon, c'est toute la nature humaine à travers lui qui est assumée. Hein. Vous comprenez ça? Et du coup, il y a eu évidemment une assomption. Il y a eu une assomption. La grâce, quand on est dans la plénitude de grâce, on touche la frontière du créé dans la grâce et de l'incréé dans la grâce. Touche la frontière entre la grâce créée et puis la grâce incréée. Alors il y a quelque chose qui fait que du coup, voilà, on peut ouvrir une petite déchirure, et de cette déchirure, on fait sortir les pauses. C'est comme ça que c'est Dieu qui a fait sortir les pauses de l'époux. On voit bien la taille de cet arbre de bas. Bon, eh bien ça, c'est pas une théorie, c'est une vie intérieure, c'est une vie humaine, c'est être un être humain normal. Le papa, il donne le double à son voisin. Il dit, c'est fou que mon fils ait fait ça. Il trouve ça tout à fait normal. Et il demande pardon tous les jours qui suivent. Il ne fait pas le fier en disant, je vous ai fait le double. Ah non, il n'est pas fier. Il continue à demander pardon et il trouve ça normal. C'est un type normal. Donc retrouver une humanité normale. Il faut arrêter de faire des combats collatéraux inutiles qui sont utiles localement, si vous voulez, mais qui doivent être utiles. Mais on a un capital de vie qui est limité. C'est quand même plus facile, c'est quand même beau de rentrer dans l'union transformante. Et savoir que du coup, la petite fille, la toute petite Marie, l'arabe, là, elle prend autorité, pauvre ça. Voilà, tout simplement, elle prend autorité. Et du coup, voilà, il y a des myriades de tonnes de détritus qui tomberont pas à cause d'elle, alors qu'elle n'a rien fait d'autre. La pollution, c'est le péché par omission. L'aquilon, comme explique cette Hildegarde, c'est quoi ? C'est le vide de l'union transformante. Alors du coup, la pollution se répand dans la matière partout. Et les hommes vont surabonder la dite pollution. Mais si c'est du vide, si on les laisse dans leur vide, il n'y a plus de pollution. On a un capital de vie qui est limité. Il ne faut pas se tromper de combat. Si par un seul acte, dans une fosse à l'ennemi, par un seul acte, tu peux détruire les trois quarts de l'armée devant toi. Tu ne vas pas te battre tout seul contre le type qui est là-bas. On n'est d'ailleurs pas sûr d'être à la hauteur. Si par un seul acte, il faut... On comprend ça, je veux dire, quand si Dieu nous a choisis, eh bien très bien, il nous a choisis pour servir en sa présence, pour être le ministre de la mort. Voilà, c'est plus un simple loulou, hein. Il arrive.
Je sais pas, il est face à la, au passage là-bas, il s'est mis là-bas, il aboie, donc là, peut-être plus passé un tracteur.
Ah, c'est que.
Il commence, le gardien, ça y est.
Il commence à devenir un chien.
Voilà, il prend son rôle au sérieux.
C'est extraordinaire, hein. Il faut pas beaucoup. Hein.
Oui.
Pour enlever la pollution, hein, t'as vu? T'as pas besoin de 3 ans de pressage. Hein. La nature, la providence, ça suffit. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est ça. C'est Dieu qui se met en colère contre Moïse et Moïse qui se met en colère. Et c'est pour montrer que Moïse, il fait ça pour montrer que lui, il n'est pas Saint-Joseph. Hein. Moi, je ne suis pas Saint-Joseph, hein, désolé. Hein. Bon, si t'es pas Saint-Joseph, hein, bah très bien, t'iras pas sur la terre promise. Voilà. La colère dans les eaux de Meriba, voilà. Il y a une espèce d'obéissance immédiate. Voilà. Le maréchal, voilà, Perfiné. Ils ont entendu une fois, il aurait fallu qu'on leur répète une deuxième fois, et ben du coup tant pis, c'est un désastre sur 100 ans. une seule manque d'obéissance, c'est pourtant facile, franchement. Hein. C'est un désastre sur un siècle, peut-être plus. Hein. C'est un cheveu, quoi, ce qui s'est passé dans la chambre de Marthe. Voilà. C'est rien. Donc, un petit cheveu de désobéissance à la grâce, c'est pas de désobéissance. Et Moïse, il a frappé une deuxième fois. Il a fallu qu'il montre qu'il voulait une deuxième fois. Il dit, t'as frappé deux fois. Ok. C'est fini pour toi. L'obéissance doit être immédiate. Au premier instant, sans discuter. Ça, c'est le signe du mariage spirituel. C'est le signe. L'obéissance, on est pauvre, hein, mais c'est la virginité d'amour. C'est tellement pur. L'amour est tellement pur. Que du coup, on fait immédiatement avant même que ça ait été prononcé, on le fait. C'est ça la grâce de Marie, c'est-à-dire la grâce catholique. Elle ne se met pas en colère. Parce que comme co-rédemptrice, je sais que c'est... Est-ce que quelqu'un a eu à subir des châtiments aussi terribles qu'elle? Dans toute l'histoire de la création, personne n'a pu subir un châtiment aussi terrible. Et le Fils de l'homme, c'est pareil. C'est terrible, terrible. Parce que l'homme d'iniquité lui-même a supposé qu'on vienne le critiquer, le faire souffrir, etc. C'est possible qu'il en ait âge. Vu que c'était quelqu'un de totalement insensible. Hein, tu donnes des coups de couteau sur la cuirasse d'un hippopotame, il sent rien. Que l'homme d'iniquité peut subir, hein. Tandis que Marie, Jésus, Joseph, ils sont extrêmement. C'est eux qui vont subir tout, et c'est eux qui portent tout. Ils peuvent porter toutes les souffrances que tous les autres hommes ne peuvent pas porter. Et ils demandent pardon et ils savent que c'est à eux de demander pardon parce que c'est eux qui sont devant Dieu. Et c'est notre nature, c'est pas. C'est quelquefois tu dis tiens, ça fait un rototo, allez. Je dis, je suis pour rien, moi, c'est pas moi, c'est pas quoi. C'est des bactéries. Voilà, mais la Sainte Vierge, c'est pas comme ça, Jésus non plus. La nature humaine a fait le péché, donc c'est moi, c'est tout. On est plus image-ressemblance de Dieu qu'image-ressemblance de l'homme d'iniquité. L'homme d'iniquité, il se fera reconnaître comme étant celui qui a supprimé la guerre, supprimé le mal. Supprimer tout. Supprimer l'athéisme. Etc. Donc, ça pour dire quoi? Pour dire que plus on s'approche de l'avertissement, qui arrive quand même au grand galop. Maintenant, c'est les chevaux de l'Apocalypse, t'es obligé de dire ça, ça arrive au grand galop. On entend les bruits des sabots. Arrive au grand galop, l'appel, c'est quoi? Ouais, c'est leur raison. c'est pas le moment de dire voilà, bon, maintenant on va vite préparer le panneau pour qu'avec des punaises on puisse pas voir ce qu'il y a à l'extérieur. Il y a des gens qui font ça, tu sais. Non, tu peux avoir les hommes, t'inquiète pas. L'oraison, l'union transformante, le mariage spirituel, de manière à être prêt, parce que voilà cette espèce de tsunami. C'est méchant, dégoûtant. On appelle le méchant. Parce qu'il y aura quelques petits-enfants, disons peut-être un seul, je ne sais pas, et les autres qui sont autour de lui, heureusement aussi, hein, arrêtera le méchant, arrêtera, laissera l'Assomption réaliser son œuvre, puisque l'Assomption de Marie, l'Assomption de Joseph, l'Assomption de Jésus, qu'on appelle l'Ascension, se réunit en une seule Assomption en la sainte tête du roi. Pourquoi ? Parce que l'Assomption de Marie, l'Assomption de Jésus, l'Assomption de Joseph sont des ascensions qui appartiennent à la nature humaine. Elles nous sont donc données. Et avec elle, on peut les faire se déployer. Nous sommes responsables de ça. Si on ne fait pas, le mal se fait sur la terre. Si le mal se fait sur la terre, c'est à cause de qui? À cause du bouddhiste qui n'en a jamais entendu parler. Ou à cause du catholique qui dit, j'ai déjà pas mal donné, je recommencerai dans 2 ans. Vraiment? On attend un petit peu. Question, réponse immédiate. Hein. Donc, la réponse est immédiate. Vous dites, il sera sauvé, mais il a sa part. Hein, mais c'est le catholique qui est appelé à partir. Il est appelé le catholique de France, la Jeanne d'Arc, le nouveau Gédéon de la terre. Tu as chevauché le cheval blanc de l'Apocalypse et détourné le méchant. Alors je vais noir, rouge, vert, il n'y a plus de méchant pour les hommes, c'est fini. Et voilà, c'est le cheval blanc qui prend la chevauchée du ciel et puis tout le monde. Et les autres cavalent derrière, c'est sûr, mais les mauvais cavalent derrière, mais ils ne le rattrapent jamais. Jamais. C'est un détournement total de la signification des temps, de la matière, du mal, du satanisme. Tout est totalement. Ça change tout. Parce qu'il y en a un qui. Voilà, qui dit. Qui vit ça parce qu'il a beaucoup, beaucoup de sainteté. C'est le. Il est très semblable à Saint-Joseph, très très semblable à Saint-Joseph, mais très très semblable. De même que Saint-Joseph finalement, et c'est à force de contempler Saint-Joseph justement, et ce grand saint qu'on appelle le grand monarque, il n'y a pas un seul qui comprenne ce que ça veut dire le grand monarque, il n'y a pas beaucoup qui comprennent ce que ça veut dire le grand monarque, même moi quelquefois j'ai un peu honte, mais bon. Ça fait rien. Quelquefois, pas forcément personne. Saint-Joseph, voilà. Il n'y a pas de grâce qui vienne sur la terre pour la transformation du monde qui n'est pas sa source dans une cause méritoire de charité héroïque et de foi pure. Ben, par exemple, l'Immaculée Conception, ben voilà, il fallait qu'il y ait Saint-Joseph. Voilà. Incarnation, ben, il fallait qu'il y ait le mariage de l'Immaculée Conception avec Saint-Joseph. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Une grâce qui vient de Dieu, qui n'est pas une cause, mais c'est jamais Dieu en direct. Hop, hop, ne discutez pas, voilà la grâce terminée. n'existe pas. N'existe pas. Cela n'existe pas. Pourquoi ? Parce que c'est une coopération. Et donc Dieu coopère avec la foi. Avec la foi. Alors, tu vois rien du tout, mais tu sais, tu touches ce que la foi t'indique. Le Saint-Esprit te permet de rentrer dans cette toucher de la foi, pénétrer à l'intérieur du mystère que tu touches, t'engloutir dedans, ouvrir les yeux et voir ce à quoi tu adhères et t'assimiler et en vivre et voir de ce et comprendre du coup. Et ce mystère s'élargit, il devient de plus en plus compréhensible. Et plus on comprend, plus on le voit, plus c'est clair, plus les vérités stupides des évidences de la Terre apparaissent comme des mensonges. Pour ce qu'elles sont, quoi. Et c'est le résumé de la foi. La foi fait pénétrer à la frontière de la grâce incréée et de la grâce créée. Et du coup, elle est identique presque à la lumière émanant de la lumière, c'est-à-dire à la première procession de lumière à créer en Dieu, avant la création du monde. Et du coup, on est face à face, égalité. C'est pour ça qu'on prend autorité la nuit. C'est uniquement parce qu'on est dans le régime de la foi. Personne ne peut prendre une autre place pour prendre autorité sur la destruction du mal. Même dans la matière. Même dans les éléments. Ah, et ça, c'est beau de voir ça. Moïse qui se met en colère, parce que Dieu se met en colère contre Moïse. C'est beau de voir cette colère de Dieu est tout à fait normale, elle n'est pas juste. Ce n'est pas la justice de Dieu est un scandale pour la sagesse. Succession du calendrier s'arrête, c'est exactement le contraire, mais là, c'est autre chose. Et du coup, alors, l'ouverture des temps, ça veut dire que simplement qu'il y a l'exigence aujourd'hui, non pas de la transformation chrétienne, mais de la transverbération. C'est la transverbération à l'union apostatique désirée, transverbération, c'est l'exigence d'aller en mariage spirituel. Ça vient le 6e et 7e demain. Ah. Et c'est pas simplement voilà, d'être fidèle à la foi catholique de toujours. On est fidèle à la foi catholique de toujours, c'est pas ça. Mais c'est pas ça qui donne. Dieu nous attend. Dieu nous attend sur la plénitude de charité, d'amour de la Jérusalem céleste, de la fin du monde, hein, qui vient avec vers nous. Le Fils de l'homme venant sur les lieux du ciel. Jusqu'à là, dans l'Eucharistie, et on le voit dans l'évangile, hein, Jésus, il prend la barque et il se retire dans un endroit qui est complètement désert pour être tout seul. Et quand il accoste, c'est-à-dire quand il arrive à la fin des temps, sur le sol solide de la résurrection, ce que Dieu origine, quand il met un coste, là, ça veut dire ça, c'est la fin. Alors, à ce moment-là, il atteint des foules qui sont venues le chercher à la fin de son voyage dans le temps. Et à partir du sol solide, et là, il leur donne l'Eucharistie. À la manière dont Marie le reçoit 5 fois 1000 dans son Immaculée Conception, dans toutes les soifs des hommes de la terre. C'est vrai, l'Eucharistie nous vient du Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. C'est extraordinaire ce qui a été engendré dans la corédemption, dans la corédemptrice du monde. Quand elle a engendré comme mère du Verbe éternel de Dieu, elle a engendré au moment de la croix, même avant, dans la création du sacerdoce éternel d'amour de son fils, elle a engendré le Père, l'embrumbré, le Saint-Esprit supervenu et le Verbe de Dieu s'est incarné dans ce sacerdoce éternel d'amour, victimal éternel, et c'est elle qui en est la mère. Ça, la corrompue, la mère. Et elle a livré son fils à ça. Et aussitôt, Judas a communié, Satan est rentré. C'était terrible. C'était terrible. Et du coup, il y a cet enchantement de la. Elle a engendré la présence eucharistique traversant tous les temps et venant de la mort finale, le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel. Et c'est extraordinaire parce que quand le Fils de l'homme vient sur les nuées du ciel, il le fait du coup à travers l'Eucharistie, à travers l'hostie, à travers la messe, à travers le sacrifice divin, à travers ça qu'il le fait. Il vient là et il s'adapte. C'est vrai, Jésus, dans l'hostie, s'adapte à chacun. Le livre des Proverbes, le pain qui descend du ciel, la manne, s'adapter au goût de chacun. Si quelqu'un aimait le fromage de gruyère, ça avait le goût du fromage de gruyère. La manne, vous ne voyez pas pourquoi il se plaignait. S'adapter, tu aimais le chocolat aux noisettes. La main s'adaptait au goût de chacun. Il n'était pas content. Et il y en a qui n'étaient pas contents. C'est parce qu'on n'est jamais content, on n'est jamais satisfait. Mais là, je veux dire, c'est pas pour dire ça, c'est pour dire que Jésus s'adapte. Quand on dit à la fin du Notre Père, il faut toujours se rappeler de ça. Parce que c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C'est quoi ce règne? C'est quoi cette puissance? C'est ça, cette gloire? C'est le royaume de l'humilité du Christ qui donne tout Dieu pour l'éternité à chacun. Et la puissance d'amour qui s'adapte dans cette humilité inouïe, cette douceur d'adaptation au Christ à chacun. C'est l'onction, c'est le Messie, c'est l'onction. Il s'adapte. Il y a eu des rites, c'est pas grave. Et la gloire, c'est la victoire de l'amour surtout. Donc c'est une toute puissance de lumière, d'adaptation, d'amour, d'onction, d'infinité à chacun. Ça, c'est l'Eucharistie, ça. Et ben, c'est elle qui a engendré ça. C'est vrai qu'elle a dû le faire en se perdant dans un abîme de perdition, si je puis dire. Un vertige de co-rédemption dans sa sacerdoce éternel incarné, johannique. Qui est tellement fort que du coup il a assumé tout le sacerdoce. Le sacerdoce de Jacques, le sacerdoce de Pierre, le sacerdoce. Le final de l'Église. Et du coup, il y a eu cet engendrement. Elle est la mère du sacerdoce, elle est la mère. Et comme elle est la mère, elle le fait à partir d'une assomption. Vous comprenez que c'est facile ça de comprendre, que c'est l'union hypostatique des irédents. Donc c'est un ré-engendrement de la réalité vivante, nourrissante du Père. Et c'est forcément à partir de la fin. Et à partir de la fin, l'adaptation se fera sous le mode de la transverbération, tandis que dans l'ancien monde ancien, l'Ancien Testament, l'adaptation se faisait à partir de la cause formelle, de la grâce messianique, c'est-à-dire on devenait de plus en plus proche du Messie, le Messie vivait au-dedans de nous. Il y avait une espèce de caresse messianique en nous, de plus en plus vers le Christ, Jésus notre Seigneur. Pour qu'on devienne des membres vivants, Jésus vivant. Et à un moment donné, tac, ça y est, il y a l'ouverture des temps. L'adaptation se fait à partir de la fin. C'est ce qu'on appelle le baiser du véritable amour. En compte des deux. Et ça, elle nous est donnée dans l'Eucharistie. Et cette Eucharistie, cette présence-là, c'est Marie qui l'engendre. Avec le sacerdoce, Johannie. C'est sûr, de la foi. C'est drôlement bien de comprendre ça. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Pour moi, c'est évident, mais peut-être pour vous, c'est du chinois, peut-être, je sais pas. C'est du chinois. On arrive à comprendre, quand même. On arrive à saisir. On arrive à saisir qu'on n'y est pas encore, peut-être aussi, oui. On arrive à saisir ça. Mais si on saisit qu'on n'y est pas encore, ne me dites pas que vous n'y êtes pas, quand même. Ne me faites pas cette tristesse. Ne me dites pas, dites, je ne suis pas en plénitude. Voilà. Mais bien sûr que vous y êtes. Et si vous y êtes, si on n'en y est pas, on le désire, on exprime ce désir, on demande qu'on puisse un jour. Le soir, on s'endort en demandant ça. On ne s'endort jamais le soir sans demander quelque chose qui est nécessaire pour l'amour de Dieu. Pas s'endormir en disant ah là là. Vite, on va regarder sur Internet les nouvelles pollutions, les dernières catastrophes. Et puis tu t'endors là-dessus, tu te rends compte? Le piège. Non, tu t'endors justement pour, en désirant pénétrer ça, que ça devienne notre monde, le monde de Dieu, le monde de la grâce, le monde de l'homme, le monde des enfants, le monde de la nature normale, le monde de l'image ressemblance de Dieu, le monde de la victoire, de la grâce, de la puissance, de la gloire, du royaume. Le royaume est là, il est au milieu de nous. Il est beaucoup plus réel que le vide de l'Aquilon. Et tous ces hommes-là qui sont nés sur la télé, le nez sur l'Aquilon. Qu'est-ce qui m'énerve? C'est vrai, c'est énervant à la fin. C'est la grosse pointure catho qui sent encore le nez sur l'Aquilon, quoi. C'est énervant. C'est pas faute qu'ils soient pas aveuglés quand même. Voilà, c'est énervant, mais il y a une mauvaise volonté aussi. Non, nous, s'il vous plaît, on va demander au bon Dieu de nous enlever la mauvaise volonté et de faire qu'on soit dans cette disponibilité surnaturelle, accomplie, parfaite, plénitude reçue. On soit dans cette disponibilité surnaturelle parfaite, accomplie en plénitude reçue. Ça, c'était la phrase du Père Emmanuel continuellement. La disponibilité surnaturelle, accomplie en plénitude reçue. Disponibilité surnaturelle. Disponibilité surnaturelle, parfaite, accomplie et en plénitude reçue. Ça, c'est ce qu'on appelle la quatrième demeure. Hein. Quand on dirait recevez-moi cœur d'amour, recevez-moi en vous, et disposez de moi, comme bon vous semble, car je vous appartiens entièrement. Amen. Hein. Cette partie-là, c'est la quatrième invocation. Disponibilité surnaturelle parfaite et accomplie, c'est-à-dire celle qui est de même nature que la Jérusalem de la fin. La fin, celle qui est absolument parfaite. Et en plénitude reçue, ça c'est la quatrième demeure. Si tu vas jusque-là, dans ton oraison, parce que la contemplation touche ce que tu vois par la foi, du coup, c'est étonné. Du coup, Dieu peut passer et te faire rentrer dans la cinquième demeure. Voilà, vous avez ici le diapason de ce qui se passe dans le cœur du roi. Il est là, oui, pour tous les autres. Et nous, c'est la seule chose sur laquelle Dieu nous attend dans les quelques minutes, dans les quelques... Voilà, c'est le dernier galop qui arrive là. Et avoir l'ouverture des temps, c'est la seule chose sur laquelle... Et donc le soir, quand on s'endort, on dit, c'est vrai, je ne me suis pas encore mis, ça fait quoi? Ça fait 10-12 jours qu'on entend le prêtre nous dire ça tous les jours, trois fois par jour, sans arrêt. Et j'ai toujours pas demandé ça le soir en m'endormant, que je puisse en avoir quelque chose, quoi. Je dis, mais alors, je suis quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe dans mon cœur? Ça ne peut pas aller. Quoi. Je vais m'y mettre, je vais me bouger un peu. Je vais me bouger spirituellement, je vais me bouger un peu dans ma... Oh, mais vous le ferez, vous inquiétez pas, et puis on gardera la persévérance. La grâce, hein, finale, vous le désirez, comme ça. Et en fait, une fois qu'on a touché le fil, après c'est bon. Si on ne touche pas, ça veut dire qu'on ne l'a pas désiré. C'est très simple. On est quand même content parce qu'on sait qu'il y en a un ou deux, au moins un en tout cas, qui y est. Quoi. Et c'est ça qui nous réconforte. On sait qu'il y a le grand monarque, on sait qu'il y a le grand... On sait. C'est comme je suis sûr que, par exemple, Joseph d'Arimathie savait très bien qu'il y avait Joseph. Quoi. Même si... Il y en avait plein qui savaient, même s'ils ne savaient pas que c'était lui, là, Joseph, qui était parti à Nazareth. Même s'ils ne le connaissaient pas, ils savaient qu'il était quelque part. Alors, d'ailleurs, ça a fait un frémissement dans la grâce messianique de tous ceux qui étaient dans la grâce messianique à fond. Ça a fait un frémissement d'une certitude, ils étaient réconfortés, ils savaient que c'était l'heure du Messie, la grâce à lui qui était là, déjà. C'est vrai, 33 ans avant déjà. Voilà. Et parce qu'on dit toujours, là, le règne du Christ dure 33 ans. Hein? Mais c'est pas vrai, Jésus a duré 36 ans. Et on dit 33 ans à cause du roi David, parce qu'il a régné 33 ans sur Jérusalem. Et le nouveau roi David, c'est Joseph. Il a fait 20 ans, 19 ans, plus 13 ans, pour obtenir, avant le mariage avec Marie. Ça fait 33 ans. Donc les 33 ans, dont nous parlons quand il s'agit du royaume du Christ, c'est le royaume a commencé avec Joseph. Et quand il meurt, il descend aux enfers. Avec ce royaume. La première fois que le royaume entier descend dans le monde des enfers. Et du coup, on compte 1290 jours jusqu'à la mort du Christ. C'est génial. Ouais, ça fait 33 ans. Puis à nouveau 33 ans. Puis 3 ans et demi. Et voilà. Et au total, ça fait depuis Moïse jusqu'à nous, ça fait 3300 ans. Célébrer la messe quand même, on va pas se désespérer pour autant, hein. On va au contraire espérer pour tous les temps. Hein.